plaisir ce soir d'accueillir Christine Chivallon, directrice de recherche au CNRS, qui est à la fois géographe et anthropologue, et dont je voudrais d'emblée souligner l'immense apport à la réflexion sur les diasporas, même si cet objet-là des diasporas ne nous retient pas ce soir en tant que tel, mais il a néanmoins posé les fondements d'une très riche collaboration avec l'équipe de Migrinter, en particulier avec William Berthomière ici présent, puisqu'ils ont dirigé tous deux un ouvrage de référence sur les diasporas qui réunissait les contributions d'une trentaine de spécialistes, je crois. Donc ceci étant, nous nous réunissons ce soir autour d'un autre ouvrage paru il y a quelque temps chez Cartala, il y a 2 ans à peu près, et qui a été distingué par un prix de recherche et qui s'intitule donc « L'esclavage, du souvenir à la mémoire, contribution à une anthropologie de la Caraïbe » et qui est l'aboutissement d'une recherche au long cours sur les sociétés nées de l'esclavage, avec pour terrain principal la Caraïbe, et au sein de la Caraïbe, plus particulièrement les Antilles françaises. Et à lire cet ouvrage, on comprend que dès le départ, ce travail sur les sociétés post-esclavagistes a placé Christine Chivallon en position de frondeuse face à certaines traditions académiques qui, en France du moins, persistaient à méconnaître le monde noir, du moins les populations noires des Amériques, issues donc de la traite transatlantique. Et j'ai trouvé vraiment passionnant, dans votre démarche, de voir comment vous parvenez à construire un objet de recherche au croisement d'un pensée. Donc d'un pensée bien sûr théorique, disciplinaire, mais pas seulement, puisque vous parlez aussi d'un pensée politique, voilà, de tout ce qui, au sens de, enfin tout ce qui touche en fait à l'économie morale d'une société, à l'éthos, hein, comme parle, enfin comme dirait Didier Fassin quand il parle de ces grilles de perception en fonction desquelles une société reçoit ou rejette tout un pan de l'expérience humaine. Et donc ces impensés, vous nous montrez bien qu'ils s'articulent les uns aux autres. Et que le tout forme un nœud que vous prenez le temps de démêler. Et voilà, la question que je reprends d'ailleurs à votre ouvrage, c'est comment faire, vous dites dans vos propres mots, comment faire pour atteindre ce qui est censé ne pas être. Voilà.
Eh bien, merci. C'est très gentil ce que vous venez de dire. C'est. Ah, faut que je parle dans le micro. Voilà, ça c'est... Oui, non, c'est gentil et respectueux, je vous remercie beaucoup. Donc je vais essayer d'aller assez rapidement, ce qui n'est peut-être pas gagné, parce que le temps nous est compté et que bon, j'avais 2 options, soit je faisais une conférence bien encadrée avec un papier sous les yeux et je débordais pas, mais pour présenter un ouvrage, c'est quand même pas top, enfin, de lire ses propres... Soit je pars en live, comme je dis, et c'est l'option que j'ai choisie. Donc je ne sais pas si je ne vais pas avoir des ramifications de temps en temps qui vont faire perdre du temps et qui ne nous permettront peut-être pas d'aller jusqu'au bout de la présentation donc de cet ouvrage, puisque c'est l'objectif. Je vais vous raconter l'ouvrage, comme ça vous invitera peut-être de le lire. Et puis, voilà. Donc, cet ouvrage, c'est... on était dans une période de ce qu'on peut appeler de la frénésie mémorielle relative à l'esclavage, qui, jusqu'à présent, on n'en parlait pas. Et donc, je dis d'emblée... Alors, je parle pas de l'avant-propos, où je me positionne par rapport à l'état actuel de la recherche, où je dis très rapidement ce soir que écrire un livre à l'heure actuelle, c'est savoir arrêter le temps de la recherche, ce qui n'est pas évident, puisque nous avons une injonction à être dans le multitâche et donc de ne pas faire de la recherche, en fait. Donc il y avait une posture au départ d'enfermement, entre guillemets, pour pouvoir écrire. Et donc aussi une espèce de qui se voit dans l'ouvrage, hein, la densité, de se dire que j'aurais peut-être pas le temps de refaire la même chose. Donc il y a peut-être 3 ouvrages en un. De vouloir traiter vraiment tant que j'en avais le temps. Et je rappelle que Bourdieu disait que le meilleur moyen d'avoir de l'emprise sur la recherche, c'était d'en réguler le temps et d'en discipliner le temps, ce qui se révèle tout à fait juste aujourd'hui. Donc ce livre, il est parti d'entrée, je dis que, après cet avant-propos, qu'il ne s'ajoute pas à la somme de tous les ouvrages qui ont été consacrés à la mémoire de l'esclavage ces dernières années, ou aux articles, aux recherches, mais qu'il en est la conséquence. À savoir que depuis que cette mémoire a émergé, il me semble que ce qui a émergé en même temps, à travers les dispositifs d'entrée dans une mémoire publique et officielle, c'est une économie morale du soupçon, qui veut que cette mémoire ait été créée de toutes pièces. Et j'y reviendrai. Donc c'était ce premier point de départ, et de me dire, mais après, quelle est la signification de cette mémoire, et existe-t-il une mémoire de l'expérience et une mémoire transgénérationnelle qui est de l'ordre de ce qu'on appelle l'expérience vécue. Et puis un deuxième préalable, c'était celui de l'anthropologie de la Caraïbe, qui n'a jamais abordé les sociétés de la Caraïbe sous l'angle direct de la mémoire d'esclavage, j'y reviendrai. Donc comme j'accordais plus d'importance, alors non pas à l'économie morale du soupçon, que j'ai désigné par ce terme, mais plutôt aux écrits qui postulaient, qui amenaient un doute sur la mémoire, venant de l'anthropologie de la Caraïbe, je vous expliquerai. Ce sont des grands auteurs. Ce sont des auteurs du type Édouard Glissant, qui a une carrure intellectuelle extrêmement importante. Donc, pour Édouard Glissant, ses écrits fulgurants du discours entier 1981 parlent de non-histoire, de mémoire raturée, de vide mémoriel, etc. Donc, je me dis, un type comme Glissant, il n'a pas pu se tromper. Donc, j'ai accordé, malgré mes travaux, qui étaient, on l'appelle la thèse de l'aliénation, qui était plutôt orientée vers un dispositif qui n'était pas forcément, qui accréditait pas cette vision de Glissant, mais je me suis dit quand même, là, sur la mémoire, il n'a pas pu à ce point ignorer des élaborations mémorielles. Donc j'ai construit un dispositif en me disant que si mémoire il y avait, elle se trouvait, je l'ai vu à partir de la notion de souvenir agissant. C'est-à-dire un souvenir qui est de l'ordre de la continuité de schèmes structurels de l'esclavage qui en sont reconduits et qui agissent un souvenir. C'est-à-dire qui font que ce souvenir est reconduit et agissant parce qu'il y a une culture extrêmement réactive, et j'y reviendrai aussi. Donc, et ce souvenir agissant, qui ressemble un petit peu à l'habitus de Bourdieu, on pourrait dire, mais je n'étais pas tout à fait satisfaite avec la notion d'habitus. Et donc ce souvenir agissant, donc, qui quand même, et j'insiste là-dessus, veut que la continuité de ces schèmes, c'est-à-dire de ces modalités de vision du monde social, ait été reconduite à travers le temps. Je me disais que j'en trouverais l'expression, puisqu'il n'y a pas de récit mémoriel dans la perspective d'un Édouard Glissant, puisqu'il n'y a pas de mémoire constituée, sédimentée, j'en trouverais l'expression à travers des conflits. Et des conflits, il y en a tous les jours aux Antilles. Il y en a tous les jours qui traversent la société antillaise de part en part. Il y en a autant à la Martinique qu'à la Jamaïque. Donc ces conflits me paraissaient être le lieu par excellence où s'exprimait le conflit fondateur entre maître et esclave, et qui traverse aujourd'hui, sous des formes différentes, la société antillaise. Donc j'ai étudié trois unités de conflit. Je me suis dit, voilà, c'est celles qui vont me parler de cette mémoire, alors dont je vous dis avec notre jargon que je l'ai baptisée la mémoire incorporée, c'est-à-dire ce souvenir agissant qui n'est pas de l'ordre de l'explicite du référent esclavage. Et donc je me suis dit que j'allais étudier trois unités de conflit qui pourraient être l'expression de la division fondatrice, l'opposition fondatrice, le conflit fondateur entre maître et esclave. La première unité, c'est une révolte paysanne qui a eu lieu 22 ans après l'abolition de l'esclavage, en 1870, et qui me paraissait être la première unité capable de parler de cette mémoire incorporée. La deuxième unité de conflit, c'est une affaire judiciaire qui a eu lieu dans les années 1940, de 42 à 49, pendant 7 années. C'est un gérard d'habitation noir, qui soupçonnait sa femme de l'avoir trompé avec le béquet, c'est-à-dire le descendant de maître aux Antilles françaises, et donc a tenté d'assassiner sa femme, et donc il a été poursuivi, et il a fui dans ce qu'on appelle les mornes, les collines antillaises, et là il a été protégé par la population locale qu'il a érigé en sorte de nègre marron, Un nègre marron, c'est celui qui fuit les plantations. Et il y a eu tout un mythe construit autour de Beauregard, c'est son nom. Et c'est la fameuse affaire Beauregard, dont Édouard Glissant d'ailleurs en fera un héros de ses romans. Il y aura des bandes dessinées, le sang du flamboyant, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a eu un film aussi. Donc ça va donner lieu à toute une mythologie autour de ce marronnage. Et qui est là aussi révélatrice du conflit dans les années 40 entre maître et esclave. Et Beauregard finira en héros, bien que son marronnage... je ne rentre pas dans ces détails. Il se suicide devant les troupes de gendarmerie venues l'arrêter puisqu'il a été dénoncé par des gens dans la population locale. Dernière unité de conflit, celle plus récente, puisque je voulais m'en rapprocher quand même de notre contemporanéité, donc c'est les conflits de terre, puisque le groupe Becquet, blanc créole, descendant des maîtres, occupe actuellement à peu près plus de 50% de la surface de la superficie foncière, de la surface à la Martinique, et il représente à peu près 0,8% de la population. Donc c'est un groupe basé sur un principe de reproduction sociale avec une stricte endogamie raciale qui ne sort de cette endogamie raciale que par alliance avec des blancs métropolitains, avec quelques exceptions périphériques dans le groupe. Donc au fur et à mesure de ma progression, ce terrain a commencé en 2003, donc j'ai fait 2003, 2004, 2007, 2009, c'était des terrains de 2 mois. Ça se situe donc, j'ai peut-être oublié de le dire et c'est très important, à la Martinique, avec un axe comparatif avec la Jamaïque. Et donc, comme j'avais bien avancé sur les premiers terrains, donc j'étais pas bredouille, je me suis dit, je vais prendre le temps de perdre du temps, ce qui est donc un luxe, comme je vous l'ai dit, en recherche. Et je voulais rechercher les descendants des insurgés de 1870. Et là, aux grandes surprises, je suis tombée sur ce que je ne cherchais pas, à savoir les expressions mémorielles qui prennent pour référent explicite l'esclavage. Et pour cette recherche qui voulait faire émerger la figure de témoin, puisque grosso modo c'est le témoin qui manque dans l'affaire, dans cette économie du soupçon sur laquelle je vais revenir, eh bien ces descendants d'insurgés transportaient des récits de leur expérience, transmise à travers les générations, et c'est donc ce que je vais vous exposer. Alors je vais vous raconter donc cet ouvrage. Alors il est construit en une sorte de boucle, et cette insurrection du Sud ayant fait prendre une toute autre envergure à cette recherche, non pas que j'ai abandonné la notion de souvenir agissant de la mémoire incorporée, mais que j'ai vu des différentes instances ou différentes modalités de rapporter la mémoire, rapporter une expérience du passé, s'exprimer différemment. Donc, j'ai conçu cet ouvrage comme un trajet en boucle, en partant du présent, faire un plongeon, inviter le lecteur à faire un plongeon dans le passé et revenir dans le présent. Donc, le présent, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'étude qui précède l'étude et qui est l'étude du champ mémoriel actuel et qui va parvenir à... diagnostiquer ce que donc j'ai appelé une économie morale du soupçon. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle configuration mémorielle ? Alors elle va émerger par étapes. Elle émerge à partir de, il y a des commémorations qui vont la faire arriver dans l'espace public, la découverte de l'Amérique, cent cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage en France, 1848-1998, bicentenaire de l'abolition de la traite en Grande-Bretagne, 1807-2007. Toutes ces dates vont amener de plus en plus l'expression mémorielle. Mais le trajet est bien balisé. 1994, le lancement par l'UNESCO de la route de l'esclave, un grand projet pour rompre le silence, c'est l'objectif clairement annoncé, rompre le silence qui a pesé sur la traite et l'esclavage, et dont on suppose tout le temps, c'est quelque chose qui est là, sans être toutefois dit clairement, et même dans les dispositifs mémoriels qui vont se mettre en place, que cette histoire se prolonge. Elle se prolonge dans tout simplement les rapports socio-raciaux qui perdurent. Donc, Donc 94, 98, donc je vous le disais, 150e de l'abolition de l'esclavage, 2001, la grande conférence de Durban, où la question des réparations et de la reconnaissance du crime contre l'humanité à l'endroit de l'esclavage va concurrencer et même être au-delà du problème du Moyen-Orient. Donc 2001, c'est aussi la loi Taubira en France qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et de là, on a toute une machinerie, ce que j'appelle moi la fabrique mémorielle, une machine du souvenir surtout, qui se met en place et qui va utiliser des outils bien rodés de la mémoire, hein, qu'on connaît bien dans le dispositif européen, occidental, à savoir les musées. Toutes les villes concernées par l'esclavage vont ouvrir leurs musées. C'est le cas à Bordeaux, par exemple, qui a maintenant une section qui est ouverte depuis 2009 sur la traite négrière. Les musées, donc, à Liverpool aussi, les expositions. C'est Liverpool qui commence par une première exposition. Ensuite, les commémorations qui vont presque envahir l'espace public. Je crois qu'actuellement, il y a 4 ou 5 dates de commémoration de l'esclavage et des abolitions, etc., en France. Donc, on va avoir un emballement et une sorte de frénésie mémorielle avec une économie symbolique qui est fortement mobilisée. On va jeter des fleurs dans la Garonne, on va à Nantes, c'est pareil. On mobilise avec les élus locaux, etc. Et on voit chaque 10 mai qui célèbre la date du 10 mai qui a été choisie comme date de commémoration officielle, qui amène donc qui est la date du vote définitif de la loi Taubira. Et on voit que ce dispositif, ce boom mémoriel, cette frénésie ne remet pas fondamentalement en question le récit national, mais l'intègre plutôt, dans le sens où jusqu'à présent c'était le mythe abolitionniste qui servait à dire l'histoire de la France et de l'esclavage. C'est pareil pour l'Angleterre, hein, les abolitionnistes, la Wilberforce, etc., Clarkson vont être des figures honorées à chaque commémoration. Et là, la République va, dans le cas français, aménager, accommoder son récit national qui ne remettra pas en cause fondamentalement la notion d'égalité et va, au travers justement de la loi Taubira et en célébrant la loi Taubira, encore rajouter une couche sur la manière dont la France est capable de reconnaissance, voire d'émancipation par rapport à un passé qui, de toute façon, elle est protégée de ce passé, la France, puisque la République naît en même temps que l'acte d'abolition, 1848, Seconde République, première République qui abolira la première abolition qui aura lieu en Guadeloupe, mais Napoléon la rétablira l'esclavage. Donc la République se colle vraiment et se cale sur la temporalité de l'esclavage. Et le slogan des célébrations de 1998, c'est « Tous nés en 48 ». C'est-à-dire nous tous sommes les enfants de l'abolition et de la libération et de l'émancipation et de la bonté, en définitive, de la République. Donc, comment expliquer ? Qu'est-ce qui fait que là, tout d'un coup, on a ce retour, comme dit Catherine Coquillot, du colonial et de l'esclavage. Alors je décline 4 facteurs qui me paraissent très importants. Ce que Jean-François Bayard a appelé une expérience mnémonique généralisée, c'est-à-dire que la mémoire est une revendication parce que nous sommes dans une époque marquée par le présentisme, hein, tel que le dit Hartog, c'est-à-dire une époque marquée par la simultanéité par rapport à une diachronie rassurante où on avait un passé pour pouvoir s'identifier, un passé qui a perdu et de sa valeur depuis notamment le drame de la Shoah, et pas dans le même sens la Shoah qui fait perdre aussi toute croyance et toute capacité à se projeter dans le futur et dans l'idéologie du progrès telle qu'elle avait pu se manifester jusque-là. Donc ce présentisme, cette peur du futur, amène une espèce de recherche permanente de ce que signifie le passé. Deuxième facteur qui me paraît aussi très important, c'est que la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire historique dans le sens de Maurice Holbox, qui la distingue de la mémoire collective. Une mémoire collective, c'est celle qui se transmet sans être dite et qui est de l'ordre du vivant, tandis qu'une mémoire historique, c'est celle qui est une rupture et qui demande qu'en tant qu'acteur, on se retourne sur son passé pour en définir le contenu. Donc cette expérience historique, de mémoire historique, s'est généralisée. Elle n'est plus l'apanage ou le monopole des historiens, mais chacun aujourd'hui est capable, par une démocratisation, par l'importance de l'alphabétisation, etc., de la culture, de l'accès à l'enseignement, chacun est capable aujourd'hui de créer son récit historique. Donc une mémoire historique généralisée. Ensuite, un troisième facteur, et qui pour moi est le plus important, c'est le changement de référent dans les luttes sociales et dans les luttes politiques, qui est particulièrement dans les rapports Nord-Sud, qui fait que avec la chute du mur de Berlin, on se retrouve privé de ce qui activait la lutte, c'est-à-dire la lutte des classes internationalisées. Et il va y avoir un glissement depuis le référent de domination en termes économiques vers un référent éthique. Et le meilleur exemple qu'on puisse trouver, c'est le mouvement antimondialiste, qui au départ s'appelle bien antimondialiste et qui finira par s'appeler altermondialiste. Donc on est dans cette interrogation des démocraties modernes, là où elles peuvent encore être interrogées, là où elles peuvent encore être déstabilisées, à savoir sur leur honorabilité et leur moralité. Donc c'est là que le ressort de l'action et le ressort de l'opposition, les indépendances ont été acquises, on n'est plus dans l'anticolonialisme, on est dans ce fameux post-colonialisme qui justement est aussi une quête tendue vers des valeurs et de redéfinition de l'universalisme. Donc c'est l'une des causes prépondérante de cette arrivée du mémoriel, cette arrivée massive qui ne concerne pas bien sûr que l'esclavage. Et puis, quatrième raison, c'est franco-française, la mémoire qui vient au secours du modèle républicain. Le modèle républicain est fragmenté, craquelé, il ne sait plus gérer la diversité. Et la mémoire est cette démonstration de la prise en compte de la diversité. Donc, ce champ mémoriel va donner lieu à un mouvement pendulaire qui à la fois reconnaît mais dénie. Et c'est là que s'intervient ce que je disais être cette économie morale du soupçon. Parce qu'on vote la loi Taubira, on fait des commémorations, on ouvre des musées. La liste est incroyablement longue de tout ce qui manifeste la prise en compte de la mémoire d'esclavage dans l'espace public. Mais en même temps, il y a des contre-expressions dont on trouve la trace et qui me paraissent être d'ailleurs parfois dominantes par rapport aux démarches de reconnaissance. Alors c'est d'abord la loi de 2005. On a voté la loi de 2001, reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, et par les nations européennes. On ne dit pas par la France, c'est pas dans le texte exactement, c'est par les nations européennes. Et 2005, on vote donc une loi dont l'article 4 a été abrogé par Jacques Chirac, de reconnaissance du rôle positif de la colonisation. On a ensuite le rôle des historiens. Il va y avoir une levée de boucliers guidée par Pierre Nora, dont Pierre Nora, qui a écrit un ouvrage en 2008 publié aux éditions CNRS, où il dit que nous sommes actuellement avec... Donc il conteste les lois mémorielles. Au début, il contestait la loi Guesso, mais il va finir par la laisser à part. Il ne va contester que ces lois qui s'adressent à des minorités et qui ne sont pas dans l'imaginaire national des minorités auréolent de gloire la nation française. Donc Nora va écrire en 2008 un ouvrage qui s'appelle Liberté pour l'histoire, du nom de la pétition qu'il avait faite contre les lois mémorielles avec Françoise Chandernagor, où là il parle de mémoires qui font régresser l'histoire, celles des descendants d'esclaves, il les nomme, et il dit que c'est de toute façon la notion de crime de l'humanité contre la notion de crime contre l'humanité ne peut pas s'appliquer à ces populations parce qu'elles sont, je le cite dans le texte, des humanités incomparables à la nôtre. Donc il introduit un ethno-différentialisme racial qui ne se cache même pas, et Nora occupe une place prépondérante. C'est lui qui va être le principal conseiller de la commission Accoyer, qui va réfléchir sur les lois mémorielles pour dire que bon, ça suffit, on n'en fera plus. Et donc on a cette configuration. Ensuite, c'est une mémoire qui me paraît être comme de l'ordre de l'enclavement. C'est-à-dire, on va, bon, ok, on fait des commémorations, on vous montre, etc. C'est une forme, ce qu'on appelle du tokenisme. C'est-à-dire, on vous, comme faisait très bien Sarkozy quand il montrait Ramaya, de Rachida Dati, etc. On vous montre deux ou trois trucs, et puis ça y est, c'est bon, c'est acquis. C'est ce qu'on appelle du tokenisme. Donc là, c'est pareil. Le champ mémoriel, c'est une forme de tokenisme, dans le sens où... Donc on montre pour cacher aussi quelque chose. Ensuite, dans ce qui permet de parler de mémoire, d'économie morale du soupçon, il y a la remise en cause constante de la loi Taubira. Par exemple, la dernière remise en cause, c'est lors des émeutes du Saint-Germain, Paris Saint-Germain, le tweet de Vialat qui dit « de toute façon, c'est tous des descendants d'esclaves, la loi Taubira va les amnistier ». Voilà, donc ça a fait une polémique. Il y a eu aussi le député Van Est qui a dit que c'était une loi anti-républicaine. Et je pense que la façon dont Christiane Taubira a été traitée lors de la loi du mariage pour tous est une conséquence de ce qui n'a pas pu se dire aussi en 2001 et qui n'a pas pu s'exprimer de manière franche et visible, à savoir un racisme qui était déjà là en 2001 mais qui ne pouvait pas véritablement s'exprimer tel que la loi du mariage pour tous a pu le laisser, mais c'est une conséquence directe aussi de la loi de 2001. Donc cette économie morale du soupçon, elle montre quoi? Si on devait rechercher, quand je parle de schèmes qui sont reconduits, si l'on voulait trouver un espace où on peut voir la réactualisation, ben c'est le champ mémoriel qui n'en donne à voir. Parce que ce n'est pas tellement le contenu du message, mais c'est la structuration. Avec une hiérarchisation qui s'opère entre ceux qui sont légitimes pour dire quelles sont les mémoires qui ont accès et qui ont accès de manière légitime, mais là, au sens que leur donnent les historiens et ceux, les militants de la République, hein, puisqu'on a parlé d'un fondamentalisme républicain, mais c'est vrai qu'on n'en est pas trop loin. Donc c'est là, on va voir que le champ se structure hiérarchiquement et ces hiérarchies puisent au passé colonial. Donc le champ mémoriel en lui-même est la meilleure exemplification de la réactualisation des rapports sociaux. Donc ce point de départ me faisait dire que nous chercheurs, en travaillant sur les expressions mémorielles, l'instrumentalisation politique, parce qu'il y a de l'instrumentalisation, y compris de la part des militants, ben nous faisait passer à côté de la question essentielle, à savoir quelle est cette mémoire. Alors là, il y a un autre chapitre qui suit celui de la démonstration de cette économie morale du soupçon, qui est de rappeler ce qu'a été l'esclavage et ce qu'il est encore, à savoir une tragédie, l'exercice d'un biopouvoir, au sens de Foucault, à savoir une gestion des vies, hein, puisqu'on renouvellera constamment l'espérance de vie sur les plantations et surtout aux Antilles. On a l'impression que les Antilles, c'est l'esclavage le plus gentil, c'est-à-dire la trilogie Accra, Morue, Accra, Rome et Madras. Non, l'esclavage aux Antilles, c'est 3 années d'espérance de vie. On renouvellera les esclaves jusqu'à ce que l'on épuise, à la différence des États-Unis, où il ne rentrera que 500 000 esclaves, mais à la veille de l'abolition, il y en aura 4 millions, parce qu'aux États-Unis, on pratiquait ce qu'on appelle l'esclavage d'élevage, et donc on favorisait la reproduction. Donc quand on parle de 12 millions d'Africains déportés aux Amériques, ça n'inclut pas tout ce qui est les modalités de gestion de ces vies et d'exercice du biopouvoir. Alors là, l'esclavage, ça n'est pas, bien évidemment, ce que l'on continue de montrer, y compris dans les musées de plantation qui existent encore aux Antilles françaises et qui existent aussi dans les États du Sud des États-Unis, à savoir cette glorification du passé, à l'éloge de la minorité blanche, des musées construits sur un peu l'imagerie d'Autant en emporte le vent. Autant en emporte le vent, dont je vous rappelle qu'il est au box-office, l'un des 10 premiers films avant Titanic. Donc cette imagerie autour du couple Clark Gable-Vivian Leigh qui montre toute la grandeur de ces planteurs. Et je vous rappelle aussi que tous les fondateurs de la Constitution étaient la majorité propriétaire d'esclaves, etc., que sont donc ce que Achille Bembé appelle les démocraties esclavagistes. Donc, on voit cet esclavage qui est annihilé dans sa propre réalité, qui était la réalité d'une déshumanisation. Les esclaves étaient des animaux du cheptel, ce qui rend la limite entre l'humain et le non-humain extrêmement intéressante à discuter, notamment avec les nouvelles théories sur la séparation entre l'humain et le non-humain. Et donc, on a ce chapitre rappelle ce qu'est l'esclavage, mais surtout ce qu'est aussi la continuité de l'esclavage. Et là, j'utilise un article que j'ai tout le temps utilisé, que je pense que j'utiliserai jusqu'à la retraite. C'est un article de Loïc Vatkan qui montre comment se reconduit et se reproduit la machine à fabriquer la race. Alors, la première machine à fabriquer la race, c'est la plantation. La deuxième machine à fabriquer la race, ce sont les lois de Jim Crow, les lois de ségrégation, qui vont faire séparer blancs et noirs, séparer mais égal. Troisième machine à fabriquer la race, l'hyperghetto, celui qui naît des grandes migrations vers le nord, par un désir de fuite du sud, parce qu'il y a la terreur des lynchages qui a fait un nombre de morts considérables, qui amène les noirs à fuir les États du sud. Donc ça, c'est le ghetto pour lequel il a fallu inventer un mot, parce que cette ségrégation, le mot ségrégation ne suffit pas, il a fallu inventer le mot d'hyperségrégation. Donc c'est la troisième machine à fabriquer la race qui continue donc. Et la quatrième, celle qui est toujours en cours d'après Loïc Vatkan, c'est le système carcéral. 60% de blancs dans les prisons aux États-Unis dans les années 60, rapport inversé, 70% dans les prisons aujourd'hui de noirs et latinos. Donc la continuité des schèmes raciaux, elle se lie aussi, y compris dans notre système français, où joue l'invisibilisation, vous le savez, de la notion de race, qui ne, à l'inverse du Royaume-Uni, où la race est une catégorie de la vie sociale à la fois officielle, publique et ordinaire. Et nous, en France, donc, on lutte contre les discriminations, toutefois sans reconnaître cette catégorie sociale, qui est une catégorie construite, on est bien d'accord, mais qui a une histoire, et qui, cette histoire, l'histoire du racisme, naît véritablement dans les premières, dans le Nouveau Monde, et dans les premières, dans ce qu'on appelle les vieilles colonies, quand il faudra, à un moment donné, parce qu'on est dans pleine émergence du projet moderne, il faudra bien arriver à justifier, à légitimer la barbarie qui est en train de se produire, cette barbarie et cette déshumanisation, et ce ne pourra être qu'en inventant un racisme qui va connaître son apogée au XIXe siècle, avec ce qu'on appelle le racisme scientifique, et qui va venir légitimer l'exploitation de ceux considérés comme d'une humanité inférieure, après l'esclavage, ce sont des enfants, et avant, comme des animaux. Donc j'en viens à l'anthropologie, comment peut-elle nous aider à définir cette mémoire? L'anthropologie, elle présente, en fait, l'anthropologie de la Caraïbe et des sociétés à fondement esclavagiste, elle présente deux obstacles. Le premier, c'est de ne s'être intéressé, et c'est ce qui structure complètement le champ de l'anthropologie, qu'à savoir si ce qu'ils sont africains ou non. Est-ce que ceux qui ont fait le passage du milieu, ce qu'on appelle le Middle Passage, donc cette fameuse traversée transatlantique, ont-ils ou pas gardé leur africanité, leur possibilité d'une continuité africaine? Alors on a trois thèses qui vont résoudre cette question. La première, c'est de dire oui, c'est Herskovitz, Melville Herskovitz, qui est un élève de Franz Boas, et qui va d'abord étudier les Noirs américains, se rendre compte, oh bah oui, non, c'est complètement déstructuré, etc. Puis il va en Haïti. Et là, il se rend compte que non, on a transporté quelque chose de l'Afrique. Il crée même une échelle de l'intensité des africanismes. Donc, à la suite de Melville Herskovitz, il y a tout un courant qui va s'inscrire dans ce qu'on appelle cette thèse continuitiste, qui va dévier parfois vers l'afrocentrisme, hein, qui est une composante qui dit que l'Occident a spolié la primauté des Noirs sur la création des civilisations les plus prestigieuses. Et puis, on a une deuxième thèse qui, elle, va aussi poser la question, mais la résoudre de manière différente, en disant non, ils n'ont rien pu transporter. Ils sont arrivés à l'état de foule et ils ont été obligés de tout recréer, et leur univers est celui de la rencontre, de la création, Et cette rencontre, on l'appelle la créolisation, c'est la thèse de la créolisation, et ce sont les anthropologues Sidney Mintz et Richard Price, Mintz étant un élève de Melville Herskovitz. Et donc, cette thèse de la créolisation va entretenir certaines affinités, mais pas toujours évidentes, entre la créolisation littéraire portée par Édouard Glissant et le courant de la créolité, chamoiseau, etc., dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, troisième thèse, et de loin celle qui a été la plus importante. Alors, elle s'intéresse moins à savoir oui ou non ont-ils apporté quelque chose, mais comment fonctionnent les rapports sociaux dans une telle société, qu'est-ce qu'ils permettent de faire. Et c'est ce qu'on appelle la thèse de l'aliénation, puisque la réponse est non seulement ils n'ont rien pu transporter de l'Afrique, mais surtout ils n'ont rien pu reconstruire, à l'inverse de la continuité et de la créolisation, où tout est neuf et tout est créé de nouveau, la langue, la religion, etc. Dans la thèse de l'aliénation, cette thèse va dominer longtemps. Elle dominera au moins jusqu'aux années 90. Édouard Glissant, avant de devenir l'auteur de toute la philosophie du tout-monde, de la créolisation, etc., produira l'un des plus beaux ouvrages, l'un des plus engagés, c'est le Discours antillais, 1981, où il a un regard fulgurant sur la violence de ces sociétés. Et dans cette thèse de l'aliénation, ce qui est important, c'est l'absence de la métaphore de l'absence de ruines, qui est puisée à le titre d'un poème de Derek Walcott, qui est prix Nobel de littérature, Saint Lucien, qui dira qu'il n'y a pas de ruines aux Antilles, parce que les ruines, c'est là où souffle où l'histoire, enfin où on retrouve le souffle de l'histoire, et aux Antilles, il n'y a rien à regretter à part les ruines de plantation. Et il n'y a rien d'autre que des ruines de plantation, donc il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire vers laquelle on peut se retourner, de laquelle on peut se réclamer, de laquelle on peut être imprégné. Et donc, pour lui, pour Derek Walcott, c'est une histoire donc sans monument, sans palais héroïque, il dira dans son poème. Et cette métaphore de l'absence de ruines va être réappropriée par les sociologues, dont un célèbre sociologue jamaïcain, Orlando Patterson, pour servir de décrypteur à le rapport au passé. Et Patterson dira donc que l'absence de ruines est vraiment le décrypteur, et il dira être antillais, c'est vivre dans un état d'absence absolue du passé. Donc, d'un côté, la métaphore de l'absence de ruines, dont Glissant s'inspire et qui là va sortir un peu l'artillerie lourde de la conception de l'aliénation et du vide mémoriel. Il parlera d'une société où il est impossible d'avoir la maîtrise des constituants de son identité. On est dans du vide mémoriel, pour reprendre ces termes exacts, de la mémoire obscurcie, de la non-histoire, de la mémoire raturée, de la mémoire non sédimentée et en définitive dans du non-collectif. Un autre anthropologue, Francis Affergrand, parlera d'asocialité pour traduire une incapacité à recréer du lien social à partir du drame qu'a constitué l'esclavage, qui a été une violence extrême et une violence totale. Et une violence à ciel ouvert, c'est-à-dire que l'enfermement est dans les esprits. Et c'est extrêmement important, puisque les sociétés de plantation sont des sociétés d'enfermement à ciel ouvert. Donc, aujourd'hui, il y a deux voies nouvelles, à peu près depuis les années 2010, où on va commencer à parler, à se dire, quand même, qu'est-ce qu'il est devenu ce référent de l'esclavage, qui est quand même là, et qui est la fondation de ces sociétés. Alors, on va avoir l'idée qui va s'imposer de plus en plus d'une idée de contre-mémoire, que quelque part, il y a des dispositifs qui vont à l'encontre de cette puissance de l'autorité et du dispositif colonial. Et puis ensuite, l'idée qu'il y a une pluralité mémorielle, et c'est ce que j'ai défendu dans le livre que vous avez cité sur la diaspora, c'est-à-dire qu'on n'a pas un métarécit collectif. On a plusieurs petits récits, une pluralité de récits collectifs, et qui vient du fait qu'il y a une méfiance généralisée à l'égard du pouvoir, il y a une connaissance tellement intime de la coercition et de la violence du pouvoir, que ces cultures sont animées par un désir permanent de faire en sorte que le pouvoir ne se sédimente pas quelque part, ne se solidifie pas quelque part. Donc on a sans arrêt une dynamique qui va empêcher qu'une orientation collective devienne dominante et normative, en définitive, du corps social. Et on va avoir, on le voit très bien dans le champ religieux, la Jamaïque est la société où il y a de plus de nombre d'affiliations religieuses par habitant. C'est-à-dire on crée une église et puis le lendemain on se rend compte qu'il y en a un qui veut prendre le pouvoir là, donc hop, un split et le lendemain il y a une autre église qui est créée. Donc c'est une dynamique du pouvoir qui est extrêmement caractéristique et qui fait que le récit mémoriel lui-même en est dépendant et va se démultiplier. Donc j'en viens au chapitre qui fait charnière de l'étude avant l'étude et qui est le chapitre où j'expose toutes les notions qui vont me servir, ma petite boîte à outils, enfin, et qui est parfois peut-être encombrante dans la restitution. Donc le couple histoire-mémoire, moi je privilégie la notion de régime d'historicité, la mémoire pour moi, l'histoire pardon, dans la conception que j'ai adoptée, c'est une forme de mémoire, c'est une manière, la notion de régime d'historicité, c'est... Je l'emprunte à Détienne et à Hartog, qui eux-mêmes l'ont forgé avec les écrits de Marshall Salins. C'est les modalités de conscience de soi adoptées par une société quelle qu'elle soit à travers la construction du temps ou la perception du passé. Et l'histoire est une de ces formes de modalités de conscience de soi qui accorde à la recherche sur archives, à la recherche historienne, la capacité à dire la vérité. Et c'est une... Bon, vous comprendrez que je suis un peu relativiste, mais pour moi, le régime d'historicité se place au-dessus, et de même, Holbox et sa mémoire historique et sa mémoire collective, il lui manquait la notion de régime d'historicité pour les mettre sous ce chapeau général. Donc, j'ai emprunté aussi à Paul Ricoeur la notion de souvenir, et c'est elle qui m'a aidée considérablement à... conduire cette recherche sur cette idée, parce que dire qu'est-ce que c'est la mémoire si ce n'est une histoire d'authenticité, etc. Non, je voulais pas aller dans cette voie-là. La notion de souvenir pour Ricoeur, c'est l'idée que le souvenir est forcément une trace laissée par l'expérience vécue, une empreinte. Elle a un vol, le souvenir a deux faces, la trace cognitive. On a vécu quelque chose. Et la trace pragmatique, enfin la face pragmatique, c'est le rappel. Alors Ricoeur, il a une conception un peu bizarre, il voudrait dépouiller le souvenir de ses modalités imaginantes, le rappel, le pragmatisme, pour retrouver le souvenir, l'empreinte pure. Mais bon, alors là, je ne suis absolument pas d'accord là-dessus, c'est impossible, impossible d'enlever l'imaginaire, même dans le rappel. Mais ce qui est important dans cette conception, c'est le quoi de l'expérience vécue antérieurement et qui ne laisse pas de doute quant à un relativisme excessif qui voudrait qu'après tout, tout soit contingent, y compris les expressions mémorielles. Là, on a, et là il fait émerger la figure du témoin, celui qui porte la trace cognitive des événements et les rappelle à sa manière. Donc ça, ça a été une notion extrêmement importante pour moi. Et puis, l'autre notion très importante, le récit, bien évidemment, etc., mais aussi la mémoire incorporée. Alors, la mémoire incorporée, je l'ai empruntée à la fois à Bourdieu, à la fois à Paul Connerton, et à beaucoup d'écrits qui parlent de mémoire incorporée par rapport aux traces de l'esclavage. Mémoire incorporée, ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément du récit et du référent explicite. On est dans de l'implicite pour se rappeler de quelque chose. On va retenir cette définition. Donc j'en viens à l'étude elle-même et le plongeant dans le passé, allez très vite, donc la fameuse étude de l'insurrection du Sud. Cette étude donc, qui faisait partie de ces trois unités de conflit, qui a fini par prendre le dessus, et je vais faire que cette étude-là, parce que sinon on n'aura pas le temps, je n'irai pas dans les expressions actuelles du conflit foncier, mémoire incorporée, etc., parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, cette insurrection du Sud, elle a lieu en 1870, au moment où est proclamée la Troisième République, un an avant la Commune de Paris. Alors, c'est comme si aujourd'hui, on allait interroger dans les rues de Paris et voir si on retrouvait des descendants pour nous raconter un petit peu ce qu'a été la Commune de Paris. Donc, on est sous le Second Empire, avant la proclamation de cette Troisième République. Sous le Second Empire, on est 22 ans après l'abolition de l'esclavage, en 1870, et sous ce Second Empire, ce sont un quasi-retour à l'esclavage. On veut que les anciens esclaves réintègrent l'orbite de la plantation, parce que l'esclavage correspond bien évidemment à de l'humanisme, mais correspond aussi à des conditions économiques qui font qu'on est passé à l'industrialisation et que les économies esclavagistes ne sont plus rentables. Donc pour que l'économie sucrière redevienne rentable, il faut que les anciens esclaves se transforment, soient transformés en ouvriers. D'où, par exemple, en Grande-Bretagne, le système britannique va instaurer 4 ans d'apprentissage à la liberté, ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire dans des ateliers pour apprendre aux esclaves à travailler en tant qu'ouvriers. Et donc, c'est un apprentissage du travail forcé. Sous ce Second Empire, les conditions sont très difficiles et il se produit un mouvement que n'avait pas prévu, c'est ce que dit Stuart Hall quand il parle des retombées qui sont imprévues de l'exercice du pouvoir, without guarantees. Il n'y a pas de garantie dans l'exercice du pouvoir, et là il n'y avait pas de garantie que les esclaves se transforment en prolétaires, puisqu'il y a une tendance forte qui vient faire une contre-tendance pour s'installer sur des terres qui vont être en plus sur lesquelles vont spéculer les anciens maîtres qui seront pour certains ruinés, les petites plantations. Et donc il y a une installation massive dans les massifs montagneux. Et donc va se créer une paysannerie typiquement antillaise, la paysannerie noire, et on va essayer de tout faire pour que cette paysannerie réintègre l'orbite de la plantation. Shelcher, c'est l'auteur de l'acte d'abolition de 1848, parlera de quasi-retour à l'esclavage. Donc c'est dans ces conditions qu'est proclamée la République. Et pour les anciens esclaves, les nouveaux libres, ce qu'il est attendu de la République, c'est l'abolition de la hiérarchie des castes. Parce qu'on parle de castes, les Blancs sont toujours au pouvoir. Or, cette annonce de la Troisième République est annoncée pour que rien ne change. On change de régime politique, mais le gouverneur le dit, il faut que ça reste à l'identique. Nous avons acquis, vous avez acquis la liberté, enfin, etc. Toute la société fonctionne, etc. On ne change rien, on devient république. À la même époque, il y a, juste avant les événements, un jeune noir qui a été humilié par un Blanc, qui circulait à cheval dans une commune. Alors, j'ai oublié de vous dire que tous les événements se situent dans une seule et unique commune qui passe pour être le fief de la résistance anticoloniale, qui est la commune de Rivière-Pilote, dans le sud de la Martinique, et donc où il y a le mouvement indépendantiste, notamment, qui est extrêmement important, qui l'a été pendant longtemps. Et tous ces événements-là, c'est vrai qu'historiquement, cette commune a toujours connu des événements précurseurs d'actes révolutionnaires. Donc, dans cette commune, un noir est humilié, il s'appelle Lubin, et il écrit au gouverneur pour demander vengeance, enfin pour demander justice plutôt, et le gouverneur ne lui répond pas, etc. Il a été humilié par un coup de pied, hein, parce qu'il était sur le chemin là où circulait ce fonctionnaire blanc. Et donc, n'obtenant pas la réponse du gouverneur, il va se faire justice lui-même et donne un coup de poing au Blanc, et il est condamné à 5 ans de prison. À la même époque, un Blanc qui a tué un Noir est condamné à 5 mois de prison. Donc la population réagit. Et dans les assesseurs du procès, il y avait un certain Codé, planteur, dont vous devez connaître sa plantation encore aujourd'hui, puisque c'est la plantation Lamoni, le fameux rhum Lamoni. Et donc ce planteur Codé était un conservateur et arborait sur le toit de sa plantation un drapeau blanc qui était le signe de ralliement des planteurs pour le rétablissement de l'esclavage, 22 années après. Donc, quand la République est proclamée, elle est accueillie par des cris « Vive la République !»« Mort à Codé !» Et là, va commencer la foule va commencer à être excitée, commencer à réclamer justice, etc. Les autorités vont s'émouvoir et là va s'organiser véritablement une rébellion dont on ne saura jamais si elle a été véritablement programmée ou pas. Elle va durer une semaine, elle sera comparée à un deuxième Saint-Domingue et elle ne sera connue aucunement dans l'historiographie martiniquaise, à part par deux historiens locaux qui vont l'exhumer, mais ça ne dépassera pas les limites, il faut le dire, de la Martinique. Ça n'entrera pas dans les livres scolaires et pourtant c'est une tentative extrêmement forte de renversement de l'ordre colonial avec la création d'un camp fortifié où les anciens esclaves vont s'organiser et avec des chefs, avec des troupes révolutionnaires. Et donc le soulèvement va être maté très vite, une semaine après, les troupes, le gouverneur va déclarer l'état de siège, va faire appel à des troupes de volontaires. Dans les troupes volontaires, bien sûr, il faudra que ce soit des troupes de gens de couleur pour mater la révolte. Et le moment clé va être le procès qui va se dérouler en 1871. Et là va s'installer ce que l'on peut appeler la République coloniale et la République raciale, et qui porte encore aujourd'hui dans l'espace public les conséquences de ce qui s'est passé, de la scénarisation qui va se produire au moment de ce procès. Ce procès va agir par transfiguration. Il va d'abord transfigurer la révolte, il va la transformer en affaire criminelle, parce que le planteur Codet va, pendant ses jours de révolte, être poursuivi, traqué, et finir par être la victime de ce qu'on appelle des massacres rituels. Il y en aura régulièrement tout au long de l'histoire martiniquaise, c'est-à-dire qu'une par groupe, on va massacrer un planteur avec des coutelas, avec chacun donnera un coup de coutelas, etc. Le dernier date de 1948, le dernier massacre de Béquet. Et là, il y a un retournement de la violence du colon. Et donc, ce massacre va être l'objet du procès. On ne va plus se préoccuper de savoir... le massacre a réuni une dizaine, vingtaine de protagonistes, et il y avait dans toutes les campagnes des insurgés. On ne passera sous silence l'insurrection et on transformera en affaire criminelle. La figure de Codet va être construite en figure christique. Il vivra la passion du Christ et il est présenté durant le procès comme s'étant sacrifié pour que les insurgés, les habitants des campagnes comprennent ce qu'est la liberté et ce qu'est la République. Donc on va créer un espace moral où Codet, le blanc, se donne pour sauver, tel le Christ, sauver cette population qui n'avait pas compris. Deuxième transfiguration, l'espace paradoxal de la race qui est créé durant le procès. C'est-à-dire que tout au long du procès, on va proclamer que les insurgés auront réveillé le clivage des races qui avait été aboli en 1848. Et on va dire que c'est la France généreuse qui a aboli cet espace de racial, et donc il n'y a que ces insurgés ont réveillé ce clivage racial. Et une fois que cette accusation a été assénée, on se rend compte que les membres du tribunal ne feront que s'appuyer sur cette catégorisation, au point même de pouvoir dire et de proclamer, c'est le président du tribunal, le tribunal militaire, qui proclamera que cette insurrection... les insurgés ne pourront jamais déstabiliser la classe de propriétaires, parce qu'il y aura toujours derrière cette classe de propriétaires qu'il finit par qualifier de blanc la France pour les protéger. Et on se rend compte aussi tout au long du procès de toutes les dans les actes le racisme qui s'installe vis-à-vis de cette population. Le président du tribunal les traitera de pauvres idiots, tais-toi, leur parlera dans ces termes-là, utilisera aussi le vocabulaire relatif à l'esclavage, c'est-à-dire que toi, quel était ton maître, au lieu de dire dans quelle plantation travaillais-tu, on parlera de maître encore, et de serviteur, comme donc le vocabulaire de catégorie d'appartenance propre à l'esclavage. Donc on a cet espace paradoxal d'énonciation de la race qui, la proclamant non existante, l'utilise. Une autre des manipulations qui a cours pendant le procès, c'est l'utilisation de l'amnistie. C'est-à-dire qu'on va amnistier, c'est le gouverneur qui va amnistier la plupart des insurgés. Et cette amnistie, qui est une, comme dit Ricoeur, l'amnistie, c'est une injonction à l'oubli. C'est une injonction à ne pas se rappeler de ce qui s'est passé. C'est enfouir le passé, le mettre sous le paillasson et oublier. Donc c'est un passé qui du coup est condamné à ne pas être dit. Et donc ce que va faire cette amnistie, c'est la même chose que ce qu'a fait la béatification de Codet pour les âmes. L'amnistie proclamée par le gouverneur va le faire pour les corps. Mais il y aura quand même des condamnés. Il y aura d'abord 8 condamnations à mort dans une première série du procès, une quinzaine par la suite, et puis surtout l'envoi au bagne de plusieurs insurgés qui rejoindront les communards, ce qui est un hasard de l'histoire et une coïncidence troublante de l'histoire. Donc les condamnés qui seront nombreux, mais là va se mettre en place néanmoins L'une, d'abord, au cours du procès, cette déshéroïsation totale des figures insurrectionnelles qui ne seront plus des auteurs d'une posture contre la domination, mais qui seront donc des assassins, des sanguinaires, et sont traités tout au long du procès par ces termes-là, assassins, sanguinaires, sauvages, etc. C'est une utilisation extrêmement lourde de ce vocabulaire. Et donc, c'est la scène inaugurale qui s'installe du grand malentendu républicain, qui va installer une république qui requiert l'aveuglement pour sceller un lien sacré avec une république virtuelle qui n'existe pas, qui n'existe que dans l'image et dans le discours qu'elle déploie et qui, dans la réalité, se traduit par une hiérarchie raciale restée à l'inchangé et qui perdurera et qui est aujourd'hui encore qui est visible au moins à la Martinique. Donc c'est la répétition de la scène primordiale de violence qui, là, est déléguée au pouvoir colonial, non plus aux planteurs dans la plantation, mais au pouvoir colonial. Cette insurrection est intéressante à comparer, j'en dis juste deux mots, avec la même insurrection, enfin la même insurrection, une insurrection contemporaine qui se déroule de la même manière à la Jamaïque. Mais là, le pouvoir colonial va avoir tout à fait une autre attitude, à savoir qu'il va y avoir, il n'y aura pas de massacre à la Martinique. La répression va être matée, mais sans massacre. À la Jamaïque, il y a un véritable massacre. C'est pareil, c'est une insurrection très violente qui dure une semaine, qui est matée très vite, qui est matée par les troupes de Marron. Bon, je passe là-dessus. Et on va avoir des pendaisons publiques après des procès sommaires qui se déroulent sur une journée, avec des tortures qui se déroulent devant les protagonistes de l'insurrection. Cette insurrection s'appelle Morand Bay, l'insurrection de Morand Bay, qui est très célèbre, qui a donné lieu à la création de héros nationaux qui sont honorés aujourd'hui au National Heroes Park à Kingston, donc Paul Bogle et William Gordon. Ces pendaisons et ces tortures, on va fouetter les insurgés avec des fouets, avec munis d'embouts en acier, etc. Mais à la suite de ça, à la différence de ce qui passe dans le système français qui installe véritablement un dispositif de croyance en une bonté à la suite de cette révolution, à la Jamaïque, il va y avoir un procès à l'encontre du gouverneur qui va quitter l'île avec ses collègues et son équipe. Voilà. Et un des fonctionnaires coloniaux se suicidera sur le bateau qui le ramène vers l'Angleterre. Et il va y avoir, donc, alors il ne va pas être condamné véritablement, mais il va y avoir, par le lobby abolitionniste qui est encore présent et encore puissant, une dénonciation, et l'on parlera d'une première marche vers les droits civiques à la suite de cette dénonciation de la barbarie coloniale. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a un système colonial qui est meilleur qu'un autre, mais dans un cas, il permet de voir une vision à peu près claire des termes du conflit originel, alors que dans l'autre, les pistes sont complètement brouillées. Et puis, un autre acquis de cette comparaison, c'est de voir combien les insurgés à la Jamaïque ont été structurés autour du religieux. Le religieux est le lieu par excellence de la révolte et de la contestation. Il y aura aussi la force de l'écriture. Il y a des traces, des lettres, on n'a absolument rien à part les actes du procès. On n'a jamais eu de témoignages d'esclaves dans les Antilles françaises, contrairement aux Antilles anglophones. Et l'on voit là que l'esclavage est submergent à la Martinique. Alors qu'à la Jamaïque, il y a la possibilité d'une conscience de soi qui s'exprime notamment par des institutions parallèles créées par les anciens esclaves, et notamment donc par ce fameux monde religieux que les Anglais, auquel les Britanniques n'ont jamais touché, et ce qui s'exprime notamment par le fait qu'ils n'ont pas baptisé les esclaves, par exemple. Et là, dans cet aparté d'interprétation des événements, j'analyse aussi la scène du massacre du planteur, pour la voir comme un retournement, bien évidemment, des codes du colon. Et là, il est assez. C'est l'une des premières manifestations de cette mémoire incorporée du conflit originel. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire appel à un récit, elle ne va pas faire appel à une verbalisation, Mais pendant le procès, un vieil homme dira, un descendant d'esclaves, nous avons été des animaux jusqu'à présent, c'est à eux de le devenir. Et effectivement, pendant cette scène de violence, on va assister, d'après les témoignages donc, d'archives, à une véritable animalisation, et même au témoignage des gens d'aujourd'hui, une animalisation du planteur, et la transgression totale ne pourra aboutir, ne pourra se faire et s'effectuer qu'à partir du moment où le planteur sera devenu un animal. Alors on va lui enlever ses chaussures pour qu'il traverse pieds nus la rivière, ce qui est le comble de la non-humanité. Hein. On l'appellera le cochon, lui fera manger du manger cochon. On l'enfermera dans un parc à cochons. On lui portera toute une symbolique qui fera que le massacre ne sera possible qu'à partir du moment où on aura animalisé le planteur. Dans cette plongeant dans le passé, et je vais l'arrêter là, et pour revenir très vite à l'actualité, donc il y aura les traces à la fois d'archives, du procès, etc. Les témoignages oraux me permettront de reconfigurer le tissu social, faire émerger les figures de ceux qui ont vécu à cette époque, faire émerger les figures des insurgés, faire des biographies, faire des généalogies, dont je vous expliquerai après, et donc de retrouver ces traces emmêlées, donc le tissu extrêmement complexe du système colonial qui va se traduire par une série de relations extrêmement compliquées avec notamment des paternités non reconnues avec les blancs, etc. Tout au long du procès, il y a un type qui appellera Codé Papa Codé. Il n'y a aucune trace de la paternité, elle n'est même pas possible parce que Codé était plus jeune que lui. Mais cette appellation Papa Codé montre qu'il était sous la protection de ce Codé. Et c'est tout ce tissu relationnel fait de cooptation, de petits services, de donations, qui va permettre à un système aussi violent de tenir le coup et qui craquelle dès qu'il y a une étincelle, quelque chose qui, comme l'affaire Lubin, qui permet d'en montrer la fragilité et l'extrême inégalité. Donc, la violence, à partir de cette scène, apparaît comme le lieu ultime d'une mémoire d'un esclavage qui, jusque-là, est submergent. Mais se met en place, je vous le disais, cette paysannerie qui va construire ce qu'on peut appeler des territoires patronymiques en lieu de protection de soi. Et le nom acquis à l'abolition, puisque les esclaves acquièrent un nom au moment de l'abolition, et cette acquisition conjointe des terres va créer un espace de distanciation avec la plantation. Et l'équivalent de l'institution religieuse, et bien qu'il y ait une paysannerie à la Jamaïque, sera à la Martinique l'institution des territoires patronymiques comme lieu de construction d'un double colonial, notion que j'emprunte à Achille Bembé, c'est-à-dire de celui qui n'est plus ce que le colon exige de soi, bien que Bembé ne dit pas tout à fait la même chose, mais un soi qui retrouve une existence distancée par rapport à la plantation. Et ce sont ces lieux patronymiques, ces territoires patronymiques que vont raconter aujourd'hui les descendants d'insurgés. Et je termine là-dessus, puisqu'on revient dans le présent, pour suivre la trace qu'a laissé ce souvenir, donc qu'a laissé cette scène inaugurale du grand malentendu républicain. Les descendants d'aujourd'hui racontent avec une précision étonnante, d'une part les événements, d'autre part les généalogies, alors qu'ils sont censés, dans le vide mémoriel qui les envahit, ne pas les connaître. Et ils ont un récit qui raconte deux types de mémoire, la mémoire de la souffrance et la mémoire de la réparation. La souffrance, ce sont des familles qui, jusqu'à aujourd'hui encore, ont été stigmatisées comme des fils d'assassins. On ne connaît pas cet événement sous le nom d'insurrection du Sud, mais d'affaire Codé, ce qui traduit les termes des procès. Jusqu'aux années 70, des processions étaient organisées dans la commune par un prêtre béquet pour expier la faute du crime de Codé. Dans la commune, il y a une grande croix qui s'appelle la croix Codé, là où était assassiné Codé, où on pense qu'elle porte la malédiction de Codé, et les descendants pensent qu'ils portent cette malédiction qui ressurgit tous les 7 ans et qui, par un malheur. En 1970, 100 ans après l'insurrection, un grand incendie ravage la commune de Rivière-Pilote, il est interprété immédiatement comme la malédiction de Codé. Donc les témoignages racontent cette souffrance, racontent comment ces familles ont été démantelées et racontent ce qui a été la pire des blessures. Ça a été induite par l'anathème qui a été porté à ces populations, à savoir que jusqu'aux années 80-90, certains racontent qu'à l'école, on les traitait de fils d'assassins. C'est où qu'a tué Codé ? C'est où qu'a coupé Coco Codé ? Parce qu'on pense que Coco Codé, c'est le sexe de Codé, on pense qu'il a été émasculé. Signe ultime de la vengeance par rapport à la puissance du maître. Donc ce sont des récits qui racontent cette souffrance, qui racontent cette blessure donc la plus profonde qui a été celle d'être obligé pour se libérer de cette honte du nom sali, parce que le nom, je vous l'ai dit, dans les territoires patronymiques, c'est quelque chose de fondamental, donc ont été obligés de se débaptiser. Et par exemple, un des chefs insurrectionnels s'appelle Eugène Lacaille. Ses descendants vont choisir délibérément de s'appeler Eugène pour cacher cette descendance avec... Donc ce sont des récits de la honte, des récits du secret qui sont maintenus à l'intérieur de cercles familiaux. Et pour vous en donner la mesure, en 2010, j'ai donné une conférence où une jeune Martiniquaise était présente à Bordeaux. Elle faisait une thèse à l'Université d'Édimbourg. Elle est venue me voir à la fin et elle me dit « Je crois avoir reconnu les gens dont vous parlez. Je pense que c'est ma famille. » Alors je lui dis « Ah bon, vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire, etc. » Elle me dit « Je téléphone à ma mère ce soir et je vous dirai demain. » Le lendemain, elle revient me voir et elle me dit « J'ai appelé ma mère. » Et quand je lui ai dit « Maman, est-ce que tu connais l'affaire Codé ?» Elle m'a dit, donc la maman était en Martinique, elle m'a dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de toi ?» Tu as personne au moins à côté de toi. Encore en 2010, on a peur de parler de l'affaire Codé. Alors, il faut simuler l'oubli aussi. C'est-à-dire simuler l'oubli de ces familles démantelées, de ces familles où, sous le mode du secret, on se protège de l'extérieur pour ne pas dire qui l'on est. Et puis, il y a donc ces mémoires réparatrices. Parce que dans l'entre-soi familial, il va y avoir la possibilité du récit. La possibilité du récit sous le mode du secret. À savoir que la maman, appelée par cette jeune femme, par exemple, n'était pas détentrice de tous les secrets. Il y a des passeurs de mémoire par lesquels se transmettent ce récit de l'insurrection. Alors, je vous l'ai dit, c'était une déshéroïsation totale, le procès, avec une héroïsation du moment colonial. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand les insurgés ont été exécutés, le lendemain, le gouverneur est allé dans la commune pour décorer les héros coloniaux, c'est-à-dire ceux qui avaient protégé Codé, dont son serviteur, et qui ont reçu des médailles d'or, etc. Donc une héroïsation des héros du moment colonial et une déshéroïsation totale des figures d'insurrection. Dans les familles, se produit bien évidemment la ré-héroïsation de ces figures familiales. On transporte des récits de la lutte contre la domination, contre l'esclavage. Et le référent n'est absolument pas l'insurrection. Il n'y a pas d'anachronisme, puisque, je vous l'ai dit, à cette époque-là, on était dans des conditions quasi identiques à celles de l'esclavage. Et pour les descendants d'aujourd'hui, on raconte ce moment comme ayant été placé au moment de l'esclavage, dans la période esclavagiste. Et donc, ces mémoires réparatrices, elles font intervenir l'imaginaire dont Ricoeur aurait voulu le dépouiller pour mieux démontrer que l'histoire est la matrice de l'histoire, que la mémoire est la matrice de l'histoire, puisque c'est son grand postulat. Ben cet imaginaire, au contraire, parle énormément, non plus que de la trace cognitive de l'événement. On va retrouver énormément de similitudes entre ce que racontent les insurgés sans jamais avoir eu accès aux sources écrites. J'ai porté les actes du procès qui n'étaient pas disponibles en Martinique, je les ai portés à mon second voyage en 2004. Second voyage, ça fait un peu Colomb, ça. Christophe Colomb et son second voyage. C'est bon. Et donc, ils ne connaissaient pas donc, les traces écrites. On retrouve énormément d'éléments qui corrobore, mais moi, mon but n'était pas de chercher ça. Mon but était de chercher comment on raconte aujourd'hui cette histoire. Et cette mémoire répare, et elle est une mémoire extrêmement critique, qui est exemplaire de ce que je vous disais être le rapport au pouvoir dans les sociétés antillaises, à savoir que on ne se réclame pas d'un chef ou d'un autre, c'est une culture qui réagit à cet ordre qui était intolérable, et on va le raconter sous la forme d'épopées de personnes qui partent à l'assaut de ces structures que l'on considère être encore les structures esclavagistes, qui vont partir à l'assaut des Blancs, et cette trame va servir aussi de critique du dispositif que l'on considère comme être encore celui de la dépendance coloniale. Un ouvrage vient de sortir et qui s'appelle « La colonisation sans nom », pour dire l'état du institutionnel politique de ces départements d'outre-mer qui posent la question de la dépendance. Et donc ces récits vont en même temps servir de décrypteurs à la réalité actuelle. Donc je vais m'arrêter là. Je vais simplement vous montrer, si j'ai le temps, deux ou trois photos. Je n'ai pas le temps. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est la figure du témoin qui émerge. Une grosse conclusion. Bon, il n'y a pas tout. Il y a d'autres résultats. Mais là, on a vu la figure du témoin qui émerge. Donc là, ce sont les fameuses généalogies avec, vous voyez, le changement de patronyme, c'est là marqué en vert. Hein. Là, c'est la branche. C'est des généalogies simplifiées. Il y a des généalogies un peu plus complexes avec tous les réseaux de parenté. Le changement de patronyme qui intervient, donc la caille qui devient Eugène. Là, pareil, hein, je passe très vite. C'est le travail généalogique. Ça, c'est généalogie simplifiée. Ça, c'est beaucoup plus sur les parentés du quartier, pour montrer. Et notamment, une parenté m'intéressait particulièrement, celle qui concernait cette famille dont la jeune fille est venue me voir. Parce qu'ils ont dévoilé un secret. Il s'appelait, l'ancêtre insurgé s'appelait Vincent Rosine. Et dans la famille, on a toujours raconté et l'histoire de son nom et l'histoire des terres, parce que les terres vont avec. Parce qu'on a amputé le nom, mais on a amputé aussi les terres. Et ça, c'est la deuxième blessure. Et ce Vincent Rosine, un membre de sa famille travaillait à la mairie, a trafiqué les registres d'état civil pour qu'il ne porte plus que Vincent. Et l'autre branche s'appelle Rosine. Et donc, Rosine est restée innocenté par rapport à l'insurrection, enfin au crime de Codé, et la branche Vincent a porté l'anathème et a porté la honte de cet événement. Voilà, alors voilà le fameux endroit où a été tué Codé, la croix Codé, avec cette croix donc qui porte la malédiction. Une de mes interlocutrices me disait qu'elle ne pouvait pas s'en approcher. Ça, c'est un descendant, un fils du chef Telga, dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, qui est une figure mythique qui garde l'héroïsme, parce qu'il s'est enfui dans l'île voisine de Sainte-Lucie, n'a jamais été rattrapé. Ça, c'est justement un des descendants de Vincent Rosine qui me montre les terres qu'il pense être celles de son aïeul et qui lui auraient été enlevées après l'insurrection. Et c'est vrai que dans les actes, les registres d'hypothèques, on retrouve cette concordance entre les patronymes qui ont été bouleversés et les terres aussi qui semblent avoir été spoliées. Voilà, là, c'est là où on était avec mes interlocuteurs à la recherche du terrain où il y a eu le camp fortifié. Donc c'est la course, non pas au trésor, mais au terrain qui m'a fait vivre de grands moments. Bon, on pense l'avoir localisé. Là, c'est une séance de restitution des données, puisque ces généalogies, etc., je les ai restituées à mes interlocuteurs sous la forme que vous avez vue. Et donc, bon, je ne suis pas dupe, hein, y avait des intérêts aussi, on est dans une commune indépendantiste, etc. Donc ça, c'est le député-maire Alfred Marie-Jeanne, qui a été président du conseil régional de Martinique, qui était maire de la commune. Donc, et là, ce sont, ça je le dis pour William, les fameux étudiants du programme France Caraïbes, quand ils se trouvent en Martinique. Donc il y a beaucoup des étudiants jamaïcains, martiniquais, guadeloupéens, qui étaient présents à la séance de restitution aussi. Donc voilà, ça c'est les étudiants, ça ce sont les descendants d'insurgés. Alors inutile de vous dire qu'on ne se réclamait absolument pas avant de la catégorie descendants d'insurgés, et que c'est ce dévoilement permis aujourd'hui, cette parole délivrée qui permet, et ça c'est le descendant de Telga et Yolette, le descendante de Vincent Rosine. Voilà, ils lisent là donc les documents que je leur ai remis. Ça c'est Yolette, j'aurais aimé vous lire un extrait, on n'a pas le temps, qui a écrit un magnifique poème qui dit la souffrance de ce nom amputé, de ce nom sali, et qu'elle a été obligée d'abandonner et qu'elle se fait un devoir aujourd'hui de restituer à son aïeul. Voilà, et ça, c'est la photo familiale dont je me suis rendu compte de ce qu'elle pouvait comporter de signification, parce que je cherchais l'erreur. Donc, c'est des descendants d'insurgés. Moi, j'avais l'impression de faire une photo banale de souvenirs. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie en termes de place de l'anthropologue et qu'est-ce que c'est que cette personne qui incarne encore actuellement la dissymétrie coloniale en venant redonner le savoir à ceux qui l'auraient perdu. Voilà. J'ai tenu.
Non, mais de toute façon, après, vous pouvez parler dans
l'histoire. Oui. Moi je peux. Oui.
Je remercie beaucoup de cette conférence absolument magnifique. Et je remercie William d'avoir invité Madame Chivalimon. Ça va aussi dans le programme qui se passe aussi au TAP sur les étrangers. C'est une des conférences les plus superbes que j'ai entendues.
Vous êtes gentil. Parce que moi je suis frustrée de ne pas avoir dit d'autres, enfin parce qu'il s'est amputé de plein jambes. Merci beaucoup.
Non, mais ça ne se sent absolument pas dans le récit. En plus, c'est bien que vous l'ayez raconté comme ça, comme vous l'avez dit au début. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
Non, moi, ce qui me frappe, là, tout à la fin, oui.
Le dévoilement dont vous parlez, en fait, c'est vous qui en êtes l'agent, en quelque sorte, ou c'est déjà, il y avait déjà des séances comme ça, collectives, publiques, ou c'est parce que vous restituez des généalogies que ça advient, auquel cas ça redouble la question que vous posez de la place de l'anthropologue centrale, quoi, qui, enfin voilà.
Je serai Richard Press, je répondrai oui, bien sûr, c'est grâce à moi, c'est un anthropologue qui se construit comme un héros. Non, je pense que c'est des circonstances qui ont été favorables, de par la montée du mémoriel. Je me trouvais là, mes écrits sur la paysannerie m'avaient précédé, on me connaissait. On sait que j'ai une parole, c'est vrai quand même, j'ai une de mes collègues qui dit... tout est traversé par les catégories de classe et de race. Moi, quand je suis dans ce milieu-là, je ne sais pas, ou c'est moi qui suis naïve, je ne suis ni femme ni blanche, je sais que je le suis, mais on est plutôt sur un terrain politique. On est dans une recherche, et il y a un petit chapitre qui s'appelle « Drôle de recherche, tous chercheurs », parce que les gens étaient demandeurs, venaient à ma rencontre pour effectuer cette recherche. Alors, s'il n'y avait pas eu le contexte de résurgence mémorielle, de délivrance de la parole, et s'il n'y avait pas eu aussi les études qui m'ont précédée, qui ont montré un peu, je n'ose pas dire, patte blanche, mais qui savaient de quel bord aussi... Ma parole était politique. Forcément, elle est située dans un espace politique. Que c'est mes données qui font qu'elles sont situées dans un espace politique. Par exemple, on m'a demandé à la dernière conférence que j'ai faite si je pouvais faire ce travail avec les blancs béquets. Non, je suis située localement maintenant.
Je tiens à vous remercier pour cette présentation brillante. La qualité était là. Nous avons pu appréhender certains contours qui était jusque-là flou par rapport à certaines problématiques concernant l'esclavage dans les sociétés antillaises. J'aimerais m'appesantir sur un point. Dans le contexte actuel de la mondialisation, je vois que vous avez souligné qu'il y a la reproduction raciale des groupes béquets. Est-ce cela est-elle d'ordre d'actualité?
Oui, oui. Alors c'est extraordinaire parce que c'est dans la Caraïbe, c'est le seul lieu où il y a un groupe de donc c'est actuel, hein, ce que je vous dis, l'endogamie raciale et dans un plein dispositif républicain. Alors une fois, il y avait un représentant d'État français, puisque c'est l'État français, c'est personnifié par le préfet et le recteur. Alors là, c'était une sous-préfète qui me dit « Écoutez, vous n'écrivez pas, vous ne le dites pas, ce que je m'empresse bien sûr de faire, mais la Révolution les a épargnés, il faut qu'on fasse avec maintenant, on ne peut plus, c'est fini, hein, on est avec ça. » Donc voilà, c'est la même chose un petit peu en Guadeloupe. Mais c'est... alors là, il y a... Mais là, c'était trop long à expliquer, il y a de la part des béquets qui sont extrêmement... d'une intelligence sociale pour arriver à reproduire les conditions de leur position d'élite. Moi, il y a un anthropologue qui a écrit « Les béquets sont des judokas ». Mais c'est vrai, parce que depuis le temps, comment ont-ils fait pour arriver à toujours retomber sur leurs pattes? Et là, ils ont créé une association, tous créoles, qui reprend le paradigme de la créolité, des chamoiseaux, la créolisation de glissants, etc., pour réclamer la diversité, mais la diversité séparée. Mais ça, c'est pas dit dans ces termes-là. Et donc, ils vont à fond. Alors, ils ont créé une fondation qui promeut l'art alternatif, etc. Ils sont dans la rhétorique mémorielle. Allez voir le site Tous créoles, ça vaut. Et ils affichent les quelques rares mariages interraciaux qui existent, comme étant la preuve d'une ouverture du groupe Becquet. Et un des Becquet, il faut voir le film aussi Les Derniers Maîtres de la Martinique, qui est sur. On le trouve facilement sur YouTube, ou Les Derniers Maîtres de la Martinique, où un des Becquet interrogés dit moi, je veux protéger ma race. Et donc, lui, il a été accusé au nom des lois que nous avons, donc d'apologie. Comment on dit, apologie du racisme, apologie du racisme. Donc il a été condamné. Et là, il y a une plainte qui a été déposée par un mouvement indépendantiste qui est le mouvement international aussi des réparations contre l'association Tous Créoles, qui voit dans cette... Puisque l'esclavage a amené la beauté créole. Voilà. C'est la beauté du monde créole. Donc un procès pour apologie de crimes contre l'humanité. C'est en cours.
Merci pour votre brillante présentation. Donc, je suis heureux de vous avoir rencontré pour la première fois. J'ai lu l'ensemble de vos travaux, notamment sur la diaspora noire. Et comment vous expliquez le fait qu'il y a un déficit de réflexion sur la diaspora noire dans le contexte de la France? Abdoulaye Gueye, il a souligné, Abdoulaye Gueye, que vous connaissez sûrement.
Oui.
Et, enfin, le fait qu'en fait, les réflexions de Melville Herkowitz, Richard Price et Mintz sont rarement investis dans pas mal de travaux sur la diaspora. Alors, comment vous expliquez ça? Et souvent, on vous présente comme anthropologue et géographe. Et vous, comment vous vous présentez?
Anthropologue et géographe. Et là, je suis très en colère parce que mon labo, maintenant, dit que je suis qu'anthropologue. Non, je suis géographe et anthropologue. Et j'espère avoir, avant la retraite, l'occasion de défendre un point de vue disciplinaire qui inventerait un mot pour associer l'anthropologie et la géographie. Parce qu'on manque de ça, mais bon, c'est peut-être ambitieux comme projet. William, tu pourras m'aider peut-être, ou Ebene aussi. Bon, alors, pour les questions, là. Price, ils sont pas... on les trouve dans la littérature. Hein. C'est vraiment... Mintz et Price, c'est vraiment un modèle... On appelle ça le modèle de la rencontre. Ils sont vraiment très, très cités. Herskovitz, etc. La question de la diaspora... la première, tous les travaux actuellement, dans les années, fin des années 90, enfin, je ne sais pas si tu as en tête les débats que nous avions, quand je parlais de diaspora noire et dans mon laboratoire où il y avait des spécialistes des diasporas, une sur les Huguenots, je ne me souviens plus son nom, Michel Bruno sur la diaspora grecque, etc., dès que je parlais de diaspora noire, ah, mais même Marina, hein, je me souviens, non, ce n'est pas une diaspora, non, ce n'est pas une diaspora. Depuis, on a fait du chemin, c'est devenu une diaspora, mais ce n'est pas parce qu'on a fait du chemin, non pas par réflexivité par rapport à notre cheminement, mais parce qu'il y a eu un type qui a fait un bouquin on était obligé de l'utiliser parce que c'était une sommité intellectuelle dans le monde britannique et enfin anglophone, c'est Paul Gilroy et Stuart Hall. Donc comme eux, ils paramétraient les normes d'acceptabilité du discours scientifique, bon, tout le monde s'est mis à parler de diaspora noire. Mais au début, si on n'en a pas parlé de diaspora, et c'est un des seuls et premiers articles que j'ai écrit là-dessus et qui est dans la Rémy, c'est parce qu'il y avait, d'après moi, là, comme pour le champ mémoriel, l'idée de grande et de petite diaspora et de diaspora qui ne méritait pas le nom de diaspora. Et là, il y a un article fameux qui est de, je ne sais plus me rappeler son nom, le type de Toulouse, Alain Médame, qui dit bien que les Antillais ne peuvent pas former une diaspora et qui, parce que la diaspora, c'est la cohésion, c'est la... Et il y avait derrière, d'après moi, alors peut-être pas chez Alain Médame, hein, mais un schème colonial qui, entre petite et grande tradition, et entre grande culture et petite culture.
Peut-être une dernière question. Est-ce que vous partagez la critique de l'historien français François Fauvel-Aymard sur l'afrocentricité que revendiquent Molefi Asante et la Guadeloupéenne Amamazama?
Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Parce que je connais la critique de l'afrocentrisme, mais de Fauvel-Aymard. C'est Fauvel-Aymard, vous m'avez dit?
Oui,
d'accord,
François Fauvel-Aymard.
J'avais
oui.
pas compris. Ouais. Oui. Ah, ben là, Fauvel-Aymard, ben, il a un article dans notre livre avec. William, moi j'ai été obligée de lui faire, de le corriger, quoi. Enfin de corriger, de, ouais, d'être un peu de censure, quoi. C'était monsieur, j'interviens pour vous dire qu'est-ce que c'est la vérité et comment. C'est une orientation, on n'a pas à juger l'afrocentrisme à l'aide d'outils de vérité. C'est une représentation du monde, qu'on soit d'accord avec elle ou pas, mais il faut la prendre comme production de représentation du monde. Et la juger par, sous couvert de moi je connais la vérité. Ça, c'était pour moi, enfin, c'est difficilement acceptable. En revanche, je ne cache pas qu'il y a des extrémismes dans l'afrocentrisme qui me gênent beaucoup, à titre citoyen et personnel. Mais les formes du nationalisme noir sont parfois très dures. Marcus Garvey, n'oublions pas, travaillait avec le Ku Klux Klan et s'entendait avec lui pour dire qu'il fallait que les noirs et les blancs soient séparés. Donc c'est dur à admettre tout ça. C'est dur à admettre. On est.
Même si on gardera un très bon souvenir de votre venue. Merci beaucoup, madame.
Merci beaucoup.